France Inter.
Bonjour à tous. Violette Desmers, la plus jeune navigatrice du Vendée Globe, vient de franchir la ligne d'arrivée de la course autour du monde en solitaire, 90 jours sur son bateau. Accueillie en championne au Sable d'Olonne, la foule est au rendez-vous dans le chenal pour saluer ce phénomène de 23 ans, phénomène médiatique aussi. Elle a su raconter son aventure grâce aux réseaux sociaux et conquérir la sympathie de centaines de milliers de fans. Nous serons au Sable dans un instant. Au Proche-Orient, la trêve si fragile au lendemain d'une nouvelle libération d'otages israéliens dont les corps éprouvés braquent l'opinion de l'État hébreu et mettent la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un procès contre les haters d'Aya Nakamura, contre les auteurs de messages de haine racistes proférés contre la chanteuse au moment de la cérémonie des JO de Paris. SOS Racisme salue ce début de réponse judiciaire. L'intelligence artificielle passe en reste pour propager des messages racistes ou sexistes. Les biais des IA au menu, notamment du sommet réuni jusqu'à mardi à Paris sous la présidence d'Emmanuel Macron. Les vigilances pour neige et verglas sont levées dans le Massif central, mais Céline Dacosta, encore beaucoup de gris dans le ciel cet après-midi.
Oui, sur quasiment toute la moitié nord et l'ouest du pays, avec de faibles averses, ce sera plus lumineux pour les autres.
Le point complet sur la météo à la fin de ce journal.
France Inter.
Pour une première, c'est un coup de maître. La jeune navigatrice Violette d'Orange a bouclé son Vendée Globe ce matin. Elle a terminé le tour du monde à la voile en solitaire en 90 jours et un peu plus de 22 heures. Violette d'Orange était la benjamine de cette édition, 23 ans seulement. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Amélie.
On vous retrouve en direct des Sables d'Olonne. La ligne est un petit peu difficile. On espère que vous allez rester avec nous. La navigatrice termine donc son premier Vendée Globe à la 25e place.
Ouais, très belle performance sportive avant tout, il faut quand même le souligner, évidemment, Violette d'Orange qui a bouclé tout à l'heure ce tour.
Jérôme Val, en direct des Sables d'Olonne, est-ce que vous êtes avec nous? On va peut-être essayer de vous retrouver juste après. Alors certes, Violette d'Orange arrive 26 jours après le grand vainqueur, Charlie Dalin, mais sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est elle qui remporte la course. Bonsoir, bonjour Erwan Chassin.
Bonjour à tous.
Violette nous a envoyé le journal de bord de son Vendée Globe à travers des notes vocales qu'on a diffusées dans les journaux 13h régulièrement ici sur Inter. La jeune femme a rassemblé des centaines de milliers de followers sur Instagram ou Facebook pour partager son aventure. Pas si solide finalement, Erwan.
Oui, Violette d'Orange, qui ne connaît pas aujourd'hui cette petite voix souriante?
Hello, j'y suis, ça y est, c'est parti.
C'est normal, elle est un phénomène, tant sur son bateau de course que sur l'océan des réseaux sociaux. Nous sommes en tout plus d'1 270 000 personnes à la suivre sur Facebook, Instagram ou TikTok. Mais derrière ce succès, il y a la stratégie de communication de David Lupion, social manager de Violette d'Orange.
Nous, on applique toute une communication qui n'est pas, à mon avis, pas du tout ciblé pour les voileux. Il faut parler dans des langages très simples, être pédagogue, surtout faire vivre des émotions. Et c'est ce que Violette sait le mieux faire.
Sincère, sans filtre, attendrissante même. Violette d'Orange nous a confié durant toute son aventure autour du monde ses joies et ses peurs aussi.
Je me sens pas d'aller dans la dépression. Du coup, là, c'était une décision pas facile, mais ce matin, je me suis dit que j'allais ralentir.
Un récit passionnant sur fond de musique d'aventure, des vidéos courtes postées régulièrement sur les réseaux sociaux, tout pour plaire aux moins de 30 ans, mais aussi aux médias, explique David Lupion.
On a eu pas mal de collaborations avec des gros médias comme l'Équipe, Le Monde, France Inter, et à chaque fois qu'il y avait un passage dans un des médias, on prenait une vague d'abonnés.
Violette d'Orange achève son premier tour du monde à la voile en solitaire.
Je suis sur la dernière ligne droite. J'ai tellement hâte de faire un gros câlin à tous mes proches.
Elle, qui est entrée dans l'histoire du Vendée Globe, poussée par une vague de followers qui ne fait que gonfler.
Erwan Chassin, l'arrivée de Violette d'Orange avec cette foule immense au Sable d'Olonne qui l'accompagne en ce moment même. Cette foule sur le chenal des Sables d'Olonne. Violette d'Orange saluée également par ses aînés, notamment Catherine Chabot. Elle était la première navigatrice, la première femme à avoir bouclé le Vendée Globe en 1997. Écoutez-la, cette jeune femme l'impressionne.
C'est un sentiment, à mon avis, très fort d'accomplissement. En tous les cas, moi, c'est celui que je vois dans les yeux de tous les marins qui franchissent la ligne. Et je pense qu'elle a vraiment découvert la dimension d'aventure. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans tout ce dont elle a témoigné, c'est le bonheur qu'elle a d'être en mer. Elle est extrêmement positive. Elle me fait beaucoup penser à Samantha Davis. Elle est vraiment dans une positive attitude permanente. C'est-à-dire que même si elle a des soucis, elle témoigne de ce dont témoignent du reste tous les marins. C'est qu'au moment où on est face à la galère technique, on se demande comment tout seul on va arriver à régler le problème. Et finalement, parce qu'on n'a pas le choix, parce que si on s'arrête ou qu'on reçoit de l'assistance, la course est terminée, on trouve les solutions. Moi, j'ai été frappée aussi de témoignages de parents qui s'identifient aux parents de Violette en se disant « Mais ma fille a le même âge et si ma fille devait partir comme ça pour un tour du monde, waouh !» Les jeunes, en général, peuvent aussi s'identifier à Violette et tout ça nous fait du bien, je trouve, en ce moment.
Effectivement, voilà la navigatrice Catherine Chabot. Et l'on vous annonce que Violette d'Orange sera l'invitée exceptionnelle de France Inter demain dans le 13-14 de Jérôme Cadet. Un dernier mot quand même, puisque les Sables d'Olonne fêtent Violette d'Orange ce matin, mais aussi l'arrivée de trois autres navigateurs. Juste avant Violette, le japonais Kojiro Shiraishi a eu droit à son bain de foule. Et puis deux Français arrivent dans la foulée. Louis Duc devrait finir 26e. Et Sébastien Marseille à la 27e place.
France Inter, le journal de 13h, Amélie Perrier.
Un cessez-le-feu toujours plus fragile au Proche-Orient. L'armée israélienne a terminé ce matin son retrait du couloir de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lui, envoie des négociateurs au Qatar pour discuter de la suite. Au lendemain d'une nouvelle session de libération, à la fois immense soulagement pour les familles des otages israéliens et grand choc de découvrir ces hommes si maigres, si éprouvés par 16 mois de captivité dans la bande de Gaza. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, chargé de récupérer les otages auprès du Hamas et de les emmener ensuite jusqu'en Israël, est de plus en plus inquiet des cérémonies de libération mises en scène par le Hamas. Christian Cardon est le porte-parole du CICR.
Bien sûr, elles sont extrêmement douloureuses, ces images qu'on a pu voir tous. On peut évidemment en aucun cas cautionner tout ça. C'est terrible parce que, évidemment, ça ajoute une pression énorme pour les familles qui regardent ça. Il faut s'imaginer que le moment où les otages sortent, les familles peuvent suivre ça en direct. Donc, c'est terrible. Maintenant, il est très important de rappeler aussi les limites que nous, on peut avoir dans un terrain comme celui-là. Évidemment, on peut rappeler publiquement que ça doit se passer dans d'autres conditions. Maintenant, il est très important aussi de comprendre qu'en aucun cas on veut être un obstacle à la libération, qu'en aucun cas on veut freiner sur des questions qui pourraient ralentir le processus.
Christian Cardon du CICR, invité de France Info. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens ont été libérés, 5 otages thaïlandais également. En échange de 765 prisonniers palestiniens, il resterait donc 4 otages israéliens vivants à relâcher, 8 corps à rendre à leur famille, contre 1900 palestiniens selon les termes de l'accord. Autre condition de cet accord, le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. Ils peuvent rentrer chez eux sans contrôle. Ils en avaient été délogés par l'offensive de l'armée israélienne et sont menacés d'être expulsés aujourd'hui par Donald Trump avec son idée de transformer la bande de Gaza en paradis touristique et hôtelier. Les Israéliens, juste en face, ne sont pas rassurés, en tout cas, de voir revenir leurs voisins. Nos envoyés spéciaux Valentin Dunat et Jérémy Tuil se sont rendus à Netiv Asara, un moshav, un village communautaire. Reportage.
C'est le village le plus proche du nord de la bande de Gaza. 20 personnes ont été tuées ici le 7 octobre et forcément, dans ce contexte...
Je serais stupide de ne pas m'inquiéter. Le Hamas n'a pas changé de façon de faire. Le Hamas, c'est le Hamas.
Ila Fenlon est agricultrice et désormais armée.
Maintenant, ce que je souhaite, c'est que mon gouvernement et mon armée soient plus forts. Il y a des gens à 100 mètres de là où nous sommes qui feront n'importe quoi pour tenter de me tuer. Et moi, je dois tout faire pour que ça n'arrive pas.
Il y a donc les armes, les munitions en plus grand nombre dans ce village, mais aussi certains regrets. Nitsan a 83 ans, il parle français. Lui estime que les Israéliens devraient davantage communiquer avec leurs voisins.
Quand tu apprends sa langue, tu l'invites chez toi à la maison, tu commences déjà à avoir des relations personnelles. Mais quand tu le détestes, quand tu l'abaisses, quand tu crois qu'il est bête, eh bien là commence le problème. Ça dépend de toi.
Vous l'entendez, hein, ici au plus proche de la bande de Gaza, on est loin, très loin d'estimer que la solution proposée par Donald Trump est viable et pertinente à la fois pour eux, Israéliens, et pour les Palestiniens, de l'autre côté du mur.
Le reportage de Valentin Dunat avec Jérémy Tuil dans le sud d'Israël, en face de la bande de Gaza. Dans les Balkans, c'est l'ombre russe qui préoccupe et plane sur un nouveau scrutin ce dimanche. Élection législative au Kosovo, le premier ministre sortant, social-démocrate et nationaliste, teste sa popularité, il fait figure de favori. Et parmi ses priorités, la lutte contre les ingérences serbes et russes. S'il l'emporte largement ce soir, ce sera un signal fort pour l'Union européenne. D'ailleurs, les dirigeants européens s'y intéressent de près, Fabien Cazot.
Comme lors des précédentes élections législatives, l'Union européenne a dépêché au Kosovo une mission d'observation électorale. Objectif, s'assurer que les opérations de vote se déroulent convenablement, sans ingérence de la part du grand voisin serbe ni de son allié russe. C'est l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, spécialiste des sujets d'influence étrangère au Parlement européen, qui supervise cette mission parlementaire au Kosovo.
Historiquement, c'est au cœur de l'Europe. Les Balkans, à chaque fois qu'on regarde ailleurs, se rappellent à notre souvenir n'est pas toujours de manière très pacifique. Leur sort a un impact sur l'Union européenne. Donc on a besoin d'y prêter attention, d'autant plus qu'on sait que dans tous les Balkans, il y a une ingérence russe très forte, il y a une ingérence turque qui n'est pas négligeable. Le Kosovo a la chance d'être une démocratie pluraliste. J'espère que les élections vont bien se passer.
La nature ayant horreur du vide, explique un haut fonctionnaire à Bruxelles, l'Union européenne tient à affirmer sa présence au Kosovo. Les élections législatives lui en donnent une bonne occasion, surtout après les dernières élections en Géorgie et en Roumanie, entachées de soupçons de fraude et de manipulation via les réseaux sociaux.
Fabien Cazot suit les affaires européennes à Bruxelles pour France Inter. Il s'était pourtant tiré d'une séquence budgétaire périlleuse. Mais François Bayrou s'enferre dans le débat sur l'immigration. Le Premier ministre l'assure, il n'y aura pas de conflit à l'intérieur du gouvernement sur les sujets d'identité nationale. Mais son idée d'organiser un large débat sur l'immigration divise au sein même de sa majorité. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a suggéré un débat sur le droit du sol. Trop étroit, a répondu François Bayrou, qui veut donc élargir le sujet. Pour Pierre Moscovici, ancien ministre, aujourd'hui président de la Cour des comptes, d'origine roumaine, ce débat, en tout cas, est vain.
Je suis devant vous, le fils d'un père qui était apatride quand je suis né. Ma mère est née en France de parents étrangers qui sont arrivés en France un an avant sa naissance. Et je me suis dit, est-ce qu'avec la suppression du droit de sol, je serai français? Et ma réponse n'est pas claire. C'est un débat extrêmement bourbeux, parce que il y a des millions de Français qui se poseront la même question que je me pose. Suis-je français? Et puis il y en a d'autres qui ne seront pas français, mais qui seront étrangers en France, qui y auront vécu toute leur vie, qui ne parleront que le français, qui n'auront qu'un rapport plus que théorique avec une nationalité qui n'est peut-être plus tout à fait celle de leurs parents. Si on supprime le droit du sol, on va être obligé de recourir à des registres, puisque votre carte d'identité ne fera plus foi. On créera une complexité massive et on ne résoudra rien. Si le problème c'est de lutter contre l'immigration irrégulière, c'est pas opérant ça.
Pierre Moscovici répondait aux questions politiques de Karine Bécard. Et en début de matinée, 57 migrants ont été secourus au large de Calais. Ils étaient à bord d'un bateau en train de se dégonfler. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met à nouveau en garde toute personne sur les risques de ce secteur maritime, l'un des plus fréquentés au monde, avec des conditions météo difficiles. À l'heure où l'on cherche partout comment faire des économies pour sortir les finances publiques du rouge ou comment engranger des recettes, ainsi, les spécialistes estiment que la criminalité financière coûte chaque année des milliards d'euros à l'État. De la corruption au blanchiment, ces milliards échappent aux caisses publiques. Une commission d'enquête sénatoriale vient de lancer des travaux, un pas important, salue l'ONG Transparency International, mais Sarah Brimboeuf prévient, le défi est de taille.
La proposition de loi de narcotrafic a permis en fait de mettre le doigt sur la criminalité financière qui est en fait la condition sine qua non de toute forme de criminalité organisée. Après, il ne faut pas qu'on détourne ce coup de projecteur. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, en fait, le constat il est très simple. Il y a un immense défi d'argent sale qui circule dans nos économies et qui proviennent de différentes infractions, que ce soit le narcotrafic ou la traite d'êtres humains ou ce qui intéresse plus directement mon association, la corruption, le détournement de fonds publics. Et en face, pas assez de moyens de police, de justice. Il y a un bon cadre juridique qui est mis en place, mais encore une fois, la mise en œuvre, elle est entravée, elle est ralentie. Les services ne communiquent pas assez entre eux, donc ce qui empêche, par exemple, de détecter certaines formes d'infractions. c'est un sujet en fait intrinsèquement transnational et donc la France ne pourra pas lutter seule. Il faut vraiment que ça soit une initiative qui soit à minima partagée au niveau de l'Union européenne, mais également avec les autres acteurs sur la place mondiale, qui ne sont pas forcément des alliés tels que ce qu'on appelle les paradis fiscaux judiciaires qui pratiquent une certaine opacité en la matière.
Sarah Brimboeuf de Transparency International, elle répondait à Ariane Grissel. C'est un autre fléau devant la justice, les injures racistes dont la chanteuse Aya Nakamura a été victime. 13 personnes sont renvoyées devant un tribunal à Paris. Elles seront jugées le 4 juin et devront répondre des messages de haine contre la chanteuse franco-malienne. Sa prestation pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a suscité avant et après des torrents d'injures. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, se félicite de ce procès à venir.
On est face à des milieux extrêmement virulents qui, à chaque fois, et on l'a vu dans d'autres situations, contribuent à déclencher des vagues de haine contre des artistes notamment. Aya Nakamura n'est pas la première à subir ce genre de situation. On a vu d'autres artistes noirs notamment subir ce genre de foudre lors de l'Euro, lors de l'Eurovision dans les années précédentes. Et vous savez, en 2012, à l'ouverture des JO de Londres, il y a eu un artiste qui a été annoncé, un rappeur, Dizzy Rascal. Ça n'a créé aucun problème dans le pays. Ce qui est propre à la France ces dernières années, c'est qu'on a des groupes d'extrême droite qui essayent d'entraîner les gens dans le fait qu'il ne serait pas normal que des Noirs, des Arabes puissent accéder à un statut les amenant à représenter la France.
Le président d'SOS Racisme, Dominique Sopo. Une haine propagée par les réseaux sociaux et par les nouveaux outils de la tech, dont l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup et pour cause. Un sommet international se tient à Paris jusqu'à mardi. Les IA génératives accusées aujourd'hui de véhiculer des biais discriminants, racistes ou des stéréotypes sexistes, notamment quand elles sont utilisées par les entreprises pour les recrutements, Marion Ferrer.
Il suffit de faire le test avec des applications d'intelligence artificielle qui génèrent des images afin de se rendre compte du problème. Natacha Kester-Séméon est directrice du collectif Jamais sans elle.
Quand on a fait la recherche, les secrétaires sont hyper sexualisés. C'est des représentations faites à partir de BD, d'un certain type de film, etc.
Et lorsqu'on demande de générer l'image d'un dirigeant sans préciser son genre, ce sont uniquement des photos d'hommes blancs qui apparaissent.
Il devrait y avoir 5% de femmes sur ces représentations et il devrait y avoir entre 20 à 30% d'origines diverses.
Plus grave encore, ces biais, reflets de notre société, du contenu sexiste et raciste présent sur Internet, impactent aussi les recherches d'emploi. Isabelle Collet est une ancienne informaticienne, spécialiste des questions de genre dans le numérique.
C'est le problème qu'a rencontré Amazon quand ils ont voulu automatiser leur recrutement. L'IA a constaté que chez Amazon, valait mieux être un homme pour être recruté et faire carrière. Et l'IA d'Amazon a écarté les CV de femmes au profit de CV d'hommes.
Pour y remédier, il est nécessaire, selon elle, d'inclure plus de mixité parmi les développeurs d'intelligence artificielle. 80 à 85% d'entre eux sont actuellement des hommes d'origine occidentale issus de milieux sociaux professionnels favorisés.
Et ce soir, Emmanuel Macron prend la parole à la télévision à 20h30 sur France 2 pour évoquer la stratégie de la France à propos de l'intelligence artificielle. Le président de la Startup Nation, comme on l'a nommé au début de ses mandats, veut compter au milieu des mastodontes américains et chinois. Parmi les enjeux, l'installation de data centers, des centres de données pour permettre l'entraînement des modèles d'IA. Le fonds canadien Brookfield annonce vouloir investir 20 milliards d'euros en France pour construire ses bâtiments à Cambrai, dans le Nord. Jack Lang, malmené hier, l'ancien ministre de la Culture a fini la soirée à l'hôpital. Il a été bousculé, il est tombé à terre en marge d'un rassemblement du collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. Jack Lang, 85 ans, président de l'Institut du Monde Arabe, sortait du métro pour se rendre à l'Opéra Garnier quand il a été pris à partie. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir signé une pétition dans les années 70 défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Une connerie, regrettera-t-il plus de 40 ans après. L'ancien ministre est sorti de l'hôpital. Dans la soirée, il a déposé plainte. Une enquête est ouverte pour violence volontaire en réunion. Et pour terminer ce journal, on va retourner au Sable d'Olonne pour célébrer l'arrivée en fanfare de Violette d'Orange, la navigatrice qui a bouclé donc son Vendée Globe. On écoute ses premiers mots.
Je pense que je suis encore sous le choc. Je suis sidérée du monde qu'il y avait. C'était incroyable. J'ai énormément d'émotions. Je sais pas où je suis. J'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve. Je suis allée au bout de cette aventure. Et je sais pas, c'est incroyable.
Voilà, Violette d'Orange et Jérôme Val, notre envoyé spécial au Sable d'Olonne. Racontez-nous cette arrivée, la ferveur du public au Sable d'Olonne.
Oui, une arrivée digne presque d'une rockstar pour Violette d'Orange. Vous savez, Amélie, j'en ai fait quand même un paquet d'arrivées sur le Vendée Globe depuis plusieurs années. Et celle-ci restera vraiment dans les annales. J'en ai même encore les frissons. Il n'y avait plus un millimètre carré de libre sur les quais de part et d'autre de ce chenal. Un monde incroyable avec des fumigènes, des cloches, des pancartes pour saluer la performance de la Benjamin de cette édition du Vendée Globe. Et Violette d'Orange qui en a profité en allant à toute petite vitesse, en saluant les poings vers le ciel de part et d'autre, ces spectateurs qui sont venus pour elle, pour saluer et pour l'encourager sur ses derniers moments en mer. Actuellement, Violette d'Orange a posé le pied à terre et répond aux premières questions, mais elle s'en souviendra sans doute très très longtemps de cette arrivée très spectaculaire, très populaire, avec plein d'effervescence et de ferveur pour saluer une véritable performance sportive sur un bateau, rappelons-le, ancien et avec l'un des plus petits budgets de la flotte de cette 10e édition.
Et oui, quel phénomène. Merci beaucoup Jérôme Val au Sable d'Olonne pour France Inter. Et je vous rappelle donc que Violette d'Orange, championne, sera l'invitée exceptionnelle de France Inter demain dans le 13-14 de Jérôme Cadet. On passe au temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour, c'est Linda Costa.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Allez, on commence par la moitié sud où c'est beaucoup plus calme qu'hier.
Oui, avec même le retour d'éclaircies de l'Auvergne jusqu'au pourtour méditerranéen et en Corse. Alors il reste quand même quelques gouttes sur l'est de la Corse, mais rien comparé à hier. Grand soleil sur les Alpes. Pour l'ouest, c'est plus mitigé avec un ciel couvert et de faibles averses des Charentes aux Pyrénées. C'est la nouvelle perturbation qui est arrivée ce matin et qui progresse dans les terres.
On passe à la moitié nord avec un ciel globalement couvert et faiblement pluvieux.
Oui, vous avez bien résumé, pas ou peu d'éclaircies, on en aura quand même quelques-unes sur l'Alsace comme ce matin ou bien sur la Bretagne. Sortie de là, ce sera du gris et de faibles averses plutôt éparses. Quant aux températures, on gagne quelques degrés, on se rapproche des normales de saison avec 5 à 9 degrés sur la moitié nord, 8 à 16 pour la moitié sud.
C'est Linda Costa, merci à vous.